Une cyberattaque sans précédent, le monde entier qui s'est retrouvé ce week-end face à la réalité du piratage informatique de grande ampleur avec des ordinateurs touchés dans plus de 150 pays, des entreprises, des banques ou des hôpitaux piratés de la Russie à l'Espagne en passant par les États-Unis, l'Angleterre et l'Asie. Des centaines de milliers de victimes ont vu leur ordinateur infecté donc par un logiciel demandant rançon et c'est une énorme pagaille qui s'est emparée de la toile depuis vendredi. Que s'est-il vraiment passé? Quelles sont les failles du système? Et comment une poignée de hackers peut-elle semer la panique sur toute la planète? Eh bien, la tête au carré y consacre son dossier dans un instant avec vos questions à nos invités sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Stéphanie Texier réalise aujourd'hui cette tête au carré.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le monde entier donc touché ce week-end par cette vague d'attaques informatiques sans précédent. L'émission y est consacrée avec mes invités, l'informaticien Gérard Berry, le directeur scientifique Nicolas Harpagian. Bonjour à vous ainsi qu'à Nicolas Kovacs qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nicolas Harpagian, pourquoi la cyberattaque de ce week-end a semblé surprendre tout le monde alors que finalement des assauts de ce type sont recensés toutes les semaines sur la planète?
Alors en fait, c'est sa simultanéité et la vitesse de diffusion. C'est-à-dire qu'effectivement, étant donné qu'elle a touché les infrastructures qui sont très communément réparties, ça donne tout de suite une impression très visible, très tangible, avec ce caractère international et surtout la pluralité des institutions visées. Donc effectivement, ça donne une image extrêmement impressionnante de cette insécurité numérique qui caractérise justement ces organisations.
Gérard Berry, est-ce que l'informatique est en train de devenir la plus grande menace pour le monde ?
Oh non, pas plus qu'avant, mais il y a eu déjà des attaques de ce type. J'étais en Angleterre il y a pas longtemps. Il y a un hôpital qui avait été, un grand hôpital qui avait été entièrement vidé de ses malades à cause de ça. Mais il faut expliquer quelque chose. Le mot victime n'est pas tout à fait approprié. Quand on a un bateau dont on voit en montant dessus que c'est une épave, on évite de monter dessus. Or, les constructeurs eux-mêmes expliquent que les systèmes qui ont été attaqués, Windows XP, Windows Vista, les constructeurs eux-mêmes disent qu'ils ne sont plus maintenus, qu'ils n'offrent plus aucune sécurité. Donc, ils font déduire que c'est des épaves et que continuer à fonctionner avec est idiot.
Oui, on verra à qui va la responsabilité justement dans cette affaire. Nicolas Kovacs, est-ce que vous avez reçu beaucoup d'appels d'entreprises infectées pendant le week-end?
Alors, on a reçu des appels justement ce week-end en réponse sur incident. Donc nous, on est un CERT, donc on se doit justement d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, justement pour ce type de cas-là. Mmh. Et effectivement, on est déjà intervenu ce week-end.
Bon, mais seulement, on le disait tout à l'heure, l'ANSSI annonce moins de 10 entreprises ont été victimes de cette attaque en France.
Effectivement, c'est pas énorme, mais ça peut changer, puisque l'attaque est quand même en constante évolution. C'est un espèce de verre, plus ou moins. Ça risque d'augmenter, quoi, en fait.
Bon, voilà. On verra pourquoi la France a enregistré si peu de cas. Est-ce qu'on est mieux protégé que les autres pays? Pas forcément. On en discute, en tout cas, dans un instant. Avec beaucoup de messages pour vous. Vous répondez aux questions des auditeurs dans un instant. Franceinter.fr pour nous rejoindre.
T'épouses la street, la tête dans le win. T'as fait du self-control, ton way of living. Pour rassurer toujours le petit nanoeil qui cligne. T'es curling, t'es curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit bibi. Toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais t'irradies. Et dandy, t'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont des crises. Elles glissent nues sur la banquise. Balaye la matière grise comme au curling. Dans ton monde on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Tu doubles fil au Ritz, descends grand seigneur. Balance nonchalamment les clés au chasseur. Et lui tapote la joue avec un petit ton farceur. T'es curling, t'es curling. Ça pince-fesse, ça gratine, mais toi tu coulisses. La vie est une faillite que tu croques à pleine tire. Petit pas de danse quand tu traverses la piste. T'es curling, t'es curling. Dans ton monde les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise. Et balayent la matière grise comme au curling. Mmh. corniche pour admirer la mer. Le soleil t'aveugle et c'est pas pour te déplaire. Belle journée pour s'éclipser et faire du curling. Du curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi, tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling.
Curling, Erwan, à l'instant.
La tête carrée. Sur France Inter.
Voilà, dossier consacré cet après-midi à l'offensive informatique massive qui a frappé le monde entier vendredi avec ses centaines de milliers de victimes, des entreprises paralysées, une pagaille monstre sur la toile. Ce sera une émission en deux parties puisqu'on aura un petit décrochage à 14h28, je vous le rappelle, pour la révélation du nom de notre futur Premier ministre. Donc ce niveau d'attaque en ce qui concerne cette cyberattaque sans précédent. Et donc avec mes invités, on va essayer de comprendre comment opère cette cybercriminalité avec vos questions qui arrivent déjà nombreuses sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Gérard Berry, donc vous êtes avec nous, informaticien, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et des technologies. Nicolas Arpagian, vous êtes directeur scientifique du cycle Sécurité numérique, c'est à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, et puis vous êtes l'auteur d'un livre, La cybersécurité, qui est paru aux presses universitaires de France. En quoi consiste votre travail ?
Alors justement, on fait de l'analyse et de la formation sur les problématiques de cybersécurité, sachant qu'elles mêlent à la fois la technique, puis les questions juridiques, les questions institutionnelles avec l'engagement des pouvoirs publics, et puis les questions d'organisation des entreprises, parce que ça ne sert à rien, et d'ailleurs le cas qui nous réunit aujourd'hui est emblématique, d'avoir des idées théoriques sur le sujet si elles ne sont pas appliquées dans les organisations, dans les entreprises, avec discipline, rigueur et surtout continuité. Et c'est vrai que souvent le pirate, par opportunisme, va s'insérer dans les failles qui auront été laissées béantes par négligence, par facilité, peut-être un peu par paresse aussi, et par mésinvestissement.
Nicolas Kovacs, vous êtes expert sécurité des systèmes d'information pour la société Digital Security du groupe Econocom. Certains de vos collègues se présentent comme hackers éthiques. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation ?
Ah, on pourrait l'appeler comme ça. Effectivement, dans chacun de nous, on est des hackers puisqu'on aime, on est curieux, on aime savoir comment les choses fonctionnent de base. C'est pour ça qu'on est dans ce métier. Et ce qui se passe,
Vous êtes des hackers qui ont bien tourné ou pas?
On est des hackers qui ont bien tourné. Voilà. Ouais. On peut dire ça. Il peut y avoir on pourrait très bien, très vite tomber dans le côté, noir, on va dire, les black hats, ce qu'on pourrait appeler ça comme ça.
Avez-vous déjà été un black hat?
Non.
Non, je n'ai pas jamais. Vous en connaissez? Vous en côtoyez?
J'en ai côtoyé.
Ouais. Oui. Qui aurait été capable de procéder à cette cyberattaque de ce week-end ou pas?
Inconsciemment, peut-être.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que en réalité, parfois, ça va être des jeunes qui vont trouver un code source qui est disponible sur Internet, qui vont lancer une attaque et ils vont pas voir l'ampleur de ce que l'attaque pourrait représenter. Et du coup, ils pourraient lancer ça depuis, comme je dis, toujours, depuis leur cave, depuis leur chambre, peu importe. Mmh. Et effectivement, à ce moment-là, tout seul, il sera tout seul, mais il se rendra pas compte de ce qu'il a fait.
Ouais. En tout cas, c'est aussi un jeune anglais, apparemment, de 22 ans, qui a permis à cette cyberattaque de ce week-end de ralentir très nettement. Hein. En tout cas, vous êtes consultant en sécurité, donc payé par les entreprises pour faire des intrusions dans les systèmes.
C'est ça.
Gérard Berry, votre regard sur ce qui s'est passé ce week-end?
Qu'est-ce
qu'on peut en dire aujourd'hui, là, 14h14?
Mon regard, ce sont des choses annoncées depuis longtemps, qui se réalisent, auxquelles les gens s'obstinent à ne pas faire attention. Il faut comprendre qu'un système informatique... Alors pour simplifier, un système informatique, ça a deux modes, le mode utilisateur et le mode privilégié. Par exemple, le mode privilégié, c'est « je peux absolument tout faire », et le mode utilisateur, c'est « je peux faire que ce à quoi j'ai droit ». Mmh. Et par exemple, une attaque va consister à passer d'un mode utilisateur au mode privilégié, ce qui change tout. Et c'est un peu comme un gros ballon de baudruche ou un gros ballon de caoutchouc ou une chambre à air. Quand on perd sa petite roue, il ne reste plus rien. Donc les petits trous font les très grandes attaques. Et quand les systèmes ont été développés très vite à l'époque où ils ont été faits, ils n'ont pas été très protégés. Puis à l'époque, il n'y avait pas tant d'attaques. Maintenant, c'est assez différent. Les gens sont beaucoup plus soigneux, mais il reste beaucoup d'attaques. Et ce sont ceux qui ont attaqué, sont des systèmes dont les constructeurs ont dit qu'ils ne les protégeaient plus.
Oui, mais ça c'est grave, non, quand même,
bah, c'est grave. Non, non, c'est tout à fait normal. C'est un travail formidable. Et il n'y a aucune raison de garder ces systèmes.
Bah justement, oui.
C'est grave.
C'est pour
de
ça. Il faudrait les enlever du système.
Mais pour ça, il faut investir, se préparer et comprendre.
Ouais, Nicolas Arpagian.
Et donc dépenser de l'argent. Le problème, c'est que l'informatique des grandes administrations, des entreprises, construit par strates, par accumulation successive de dizaines d'années, où on a empilé des technologies. Là, il est question, j'allais dire, presque des couches les plus anciennes, les plus basses. Et donc, vous êtes obligé de dire à des entreprises, il va falloir investir, dépenser de l'argent, pour permettre juste la continuité de votre activité dans un environnement plus sécurisé.
C'est pas très
vendeur.
Il s'avère
que tant qu'il n'y a pas une contrainte, et effectivement, alors une contrainte qui peut être réglementaire, la loi française, loi de programmation militaire de 2016, fixe des standards de sécurité pour les 260 grands acteurs de l'économie française. Une directive européenne, directive NIS, vient également à l'échelle européenne. En fait, c'est la réglementation qui vient tordre gentiment le bras des décideurs économiques, parce que sinon, sur leur seul sens du pilotage de leurs priorités, ils n'investiraient pas ce segment de la sécurité numérique.
Sauf que là, Nicolas Kovacs, c'est une très mauvaise publicité pour une société comme Microsoft, quand même, non ?
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui se passe, en fait, c'est que Microsoft a déjà publié des patchs de sécurité.
Alors, des patchs, c'est quoi ?
Des mises à jour. Ils ont publié des mises à jour de sécurité.
Une sorte de pansement, en fait.
Voilà, une rustine. Ouais. Ils l'ont publié déjà en mars. Donc pour cette vulnérabilité-là, pour le WannaCry, le ransomware qui sévit actuellement, il y a des patchs, des correctifs de sécurité qui empêchent justement ce ver informatique de se propager et d'infecter les postes de travail ou les serveurs. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites. C'est juste que comme cela a été dit juste avant, en fait les entreprises ne mettent pas à jour assez régulièrement leurs postes. Pourquoi ? Parce que parfois ils ont des systèmes, ils ont des applications informatiques qui sont liées à leur entreprise, qui ne peuvent pas mettre à jour parce qu'il n'y a plus de support ou il faut que ce soit testé avant de mettre à jour justement le système. Mmh. Et effectivement, ce laps de temps est suffisant pour justement endiguer une attaque.
Alors, vous parlez d'entreprise, il y a une question d'Étienne sur Twitter, Nicolas Arpagian, qui demande qui sont les victimes d'ailleurs de cette cyberattaque ? Est-ce que ce sont les simples citoyens, les entreprises, les gouvernements ? A priori, tout le monde a été concerné un peu
dans
cette affaire.
Alors, en fait, c'est surtout, si vous n'étiez pas à jour, c'est ça qui vous désigne comme cible potentielle. Pourquoi ? Parce que le logiciel malveillant a la capacité de scanner, d'aller identifier ceux qui ont cette faille, et c'est, si vous êtes porteur, en quelque sorte, pour faire simple, de cette faille, qui va vous désigner comme cible. Il s'avère que là, manifestement, on a davantage une clientèle ou en tout cas de cible d'entreprise. Par contre, toutes les personnes qui ont fait l'objet de l'attaque sont informées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu apparaître ce fameux message indiquant qu'ils doivent verser une somme, 300 à peu près dollars, en échange de la libération de leurs données. En fait, c'est ça où c'est particulier, c'est-à-dire un peu c'est comme le pirate vous désigne, il n'a pas forcément quelque chose contre vous, individu, vous, entreprise, vous, administration. En fait, c'est votre équipement, étant donné qu'il sait fracturer votre système, c'est votre équipement qui va vous désigner comme cible.
Gérard Berry, Dimitri par mail demande, j'ai un Mac, est-ce que je suis concerné ? Alors Mac, Microsoft, là c'est Microsoft en l'occurrence.
Est-ce qu'on est à l'abri de cette faille-là, par d'autres, oui. Il y a un peu moins de failles sur Mac parce que le système est peut-être un peu plus robuste. On ne le sait pas, on ne les connaît pas d'avance, les failles en général. Et puis parce qu'il y a moins de Mac, donc ça a aidé beaucoup. Et dans les entreprises en particulier, c'est très rare qu'il y ait des serveurs Mac, etc. Donc c'est pas forcément les cibles les plus intéressantes pour les hackers. Mais il peut y avoir des failles dans les Mac, dans les iPhones et tout ça. Il y en a eu déjà.
Nicolas Arpagian, est-ce que l'attaque est maîtrisée là, alors on se parle ?
Alors c'est très difficile parce qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que la matinée de ce lundi est constituée une étape supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est le début de l'attaque était vendredi. Donc on a vu les gens dont le CERT qui fonctionne sur des tranches horaires 24/7 ont pu commencer à constater l'attaque dont ils étaient victimes. Après, il a fallu les gens qui ont repris leur activité ce matin et qui ont vu que effectivement leur ordinateur affichait cette réclamation, cette offre de chantage. Par contre, maintenant, on va buter sur deux choses. La première, c'est la déclaration, savoir effectivement les personnes qui vont se signaler. Il s'avère qu'effectivement, comme l'évoque Gérard Berry, c'est vrai que si vous n'avez pas totalement mis à jour, vous êtes un peu le commandant d'une épave, vous ne tenez pas vraiment à ce qu'on sache que vos infrastructures voitures sont un peu laissées à l'abandon. Mmh. Donc ceux-là, manifestement, n'iront pas revendiquer, et ce qui rendra difficile la comptabilité. Par contre, un certain nombre d'analystes, de chercheurs ont essayé d'extrapoler la somme collectée. Et c'est vrai que là, on parle de centaines, petites centaines de milliers de dollars. Alors évidemment, c'est une somme conséquente si vous en êtes le bénéficiaire. Simplement, au regard de l'ampleur internationale, de l'ampleur des institutions visées, on voit bien que cette affaire, si elle se concrétisait dans ces sommes-là, en tout cas, ne serait pas totalement à la mesure des dégâts causés et puis surtout de l'ampleur de la vague.
On va y revenir tout à l'heure, évidemment, sur également la rançon demandée en Bitcoin. Il y a pas mal de questions là-dessus. Nicolas Kovacs, il y a donc ce jeune Anglais de 22 ans qui aurait mis un coup d'arrêt accidentel, justement, au logiciel de raquette. C'est quoi l'histoire, au fond, de ce jeune homme?
Alors, c'est pas vraiment accidentel, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est malware, tout ce qui est justement
malware,
virus.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un virus, on va dire, hein. Pour simplifier, il va s'intéresser à tout ça. Il a un compte Twitter et puis il fait état de ses recherches un petit peu tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le code du ransomware, ou en français rançongiciel, qui sévit actuellement, qui s'appelle WannaCry, il a étudié un petit peu son comportement et il s'avérait qu'il y avait une URL dans le code source de ce logiciel malveillant ce qu'on appelle effectue un kill switch, c'est-à-dire qui permet de s'arrêter ou de ne pas se propager dès lors que cette URL est accessible. Mmh. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré ce nom de domaine comme une URL, hein, ça peut être France Inter, mais sauf que là, c'est une grande URL bien particulière. Il l'a enregistré, et le fait qu'il ait enregistré ça a permis d'endiguer un petit peu l'attaque et d'éviter des nouvelles infections. Mais par contre, il y a des nouvelles souches qui sont créées de cette attaque et qui
c'est
n'ont pas cette URL.
Ce sont les répliques du séisme, justement. Gérard Berry, comment se fait-il qu'un jeune homme de 22 ans parvienne donc à freiner quand même l'attaque, alors que les plus grands informaticiens du monde sont incapables de le faire aussi vite?
On n'est jamais à l'abri d'un coup de bol, hein. C'était ma devise, c'était merveilleux. Ça doit être un type très intelligent, très bien renseigné, qui a trouvé ça, qui a essayé. Mm-hmm. Et c'est pas lui qui s'est aperçu qu'il avait freiné l'attaque, hein. D'ailleurs, c'est un Américain qui est à distance qui lui a dit qu'il avait freiné l'attaque. Il s'en est pas aperçu tout seul, mais les gens qui sont, il y a quand même quelque chose de bien. Les chercheurs et les gens comme ça qui s'occupent de la contre-attaque sont vraiment aussi bons que les gens qui font les attaques. C'est une course de gendarmes et de voleurs permanente.
Ouais, c'est votre travail d'ailleurs, Nicolas Kovacs.
Oui,
c'est ça. Hein.
C'est ça. C'est nous, on va tester la sécurité des entreprises avant que des hackers méchants, on va dire, fassent et puis pénètrent les systèmes d'information.
Mais ça, c'est votre travail au quotidien. Il y a des attaques sans arrêt.
Il y a des attaques sans arrêt. Alors nous, on répond à des attaques de ce type. Alors on fait pas que ça, on accompagne les entreprises justement à sécuriser leur système d'information. Donc justement, quand on va dans des entreprises, on va leur signaler que là, il y a un système d'exploitation Windows XP, Windows 2003, enfin des systèmes qui ne sont plus maintenus à jour par Microsoft. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant de signaler, c'est que Microsoft est intervenu et a publié des mises à jour de sécurité sur des systèmes qui sont obsolètes et les a sortis ce week-end.
Ouais. Et comment se fait-il alors ? Petite urgence.
Sûrement, ils ont vu l'ampleur et ils se sont dit, on n'a pas le choix.
Il n'y avait pas le choix. Sortir. Gérard Berry.
Oui, ils avaient décidé de plus soutenir les vieux systèmes parce que ça leur coûte horriblement cher de soutenir des épaves. Et là, ils l'ont fait parce qu'ils savaient le faire. Donc ils l'ont fait très rapidement, ça devait déjà être prêt.
On voit bien le caractère exceptionnel, c'est-à-dire en fait c'est un peu un service de secours qui vient se mettre en place mais qui n'est pas durable. C'est déjà pour l'image de marque, vous évoquez la réputation de Microsoft, et on serait quasiment dans la non-assistance à personne en danger.
Mais
dans
absolument.
Le cas de la Grande-Bretagne, on parle là vraiment de l'équivalent de la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les entités. Là c'est de la médiatisation, mais c'est vrai qu'en termes de durabilité, ces systèmes-là devront être abandonnés. D'ailleurs on peut interrogé sur, maintenant on voit arriver dans le domaine boursier financier des exigences de la part des sociétés de notation qui, on pense à Standard & Poor's, Moody's, qui commencent à fixer des règles en disant quel est votre niveau de sécurité, parce qu'en fait ça va conditionner la durabilité de l'entreprise, la pérennité de son activité, parce que si vous êtes mis hors d'état de fonctionner, si vos clients subissent des dommages tels qu'ils vont vous poursuivre, on voit bien que certes il y a de la technique à l'origine, mais là on rentre dans le monde très sonnant, trébuchant des affaires, parce qu'effectivement il y a de la responsabilité, il y a des pertes à la clé.
Et donc des assureurs qui s'intéressent évidemment au degré de protection des entreprises. L'exemple anglais, vous venez d'en parler. On va écouter un extrait du journal de France 2. C'était samedi justement avec les interventions médicales annulées en Grande-Bretagne.
Martine Laroche-Joubert, vous êtes à Londres. Certaines interventions médicales ont dû être annulées. Oui, des opérations ont été annulées à la dernière minute et les patients renvoyés chez eux ou bien dirigés vers d'autres hôpitaux. Mais les médecins ont décrit hier un véritable chaos, leur totale stupéfaction quand les ordinateurs se sont éteints un par un dans une quarantaine d'hôpitaux. Aujourd'hui, le personnel médical utilise du papier, des crayons. Tout se fait à la main. Theresa May a tenu à rassurer les Britanniques, mais il y a déjà un début de polémique. Les ordinateurs dans les hôpitaux sont très anciens, donc particulièrement vulnérables au piratage.
Voilà, Gérard Berry, la vétusté justement des ordinateurs dans les hôpitaux britanniques, par exemple.
Oui, il y a eu, je vous disais, au début de cette année, il y a eu un hôpital qui a dû évacuer ses malades, pas seulement arrêter les opérations. C'est assez curieux que ça se passe, parce que c'est quand même des choses qui sont prévues. Ce ne sont pas des surprises, il faut comprendre ça, il n'y a pas de surprise derrière tout ça. Il y a des surprises que pour les gens qui gardent la tête dans le trou, quoi. Et je dis toujours, quand on est autruche, quand on prend des coups de pied, non seulement on sait où c'est, mais on ne sait pas d'où ça vient.
Ouais. Nicolas Arpajian, on voit les conséquences pourraient être extrêmement graves. Enfin, il y a des vies, clairement, qui sont en danger avec
ces attaques. Surtout que c'est la continuité de l'activité, de la collectivité qui est mise en cause. C'est la confiance, c'est d'ailleurs également l'impact auprès de l'opinion publique. Parce que lorsqu'on touche au domaine de la santé, il y a une dimension émotionnelle qui va bien au-delà des pertes financières qui peuvent affecter une entreprise. Là, on voit bien qu'on est dépendant de cette exposition au risque numérique. On a mis des systèmes d'information dans l'ensemble des pans d'activité de notre société. Simplement, la question, c'est maintenant de se dire, est-ce que nous avons pris des précautions pour faire en sorte que l'on puisse avoir confiance que quand on appuie sur un bouton, l'ordre donné soit bien effectué et surtout que l'activité puisse être maintenue en l'état tel qu'on le souhaite pour rendre le service attendu.
Nicolas Kovacs, sur le site internet de votre société, on s'intéresse beaucoup aux objets connectés, à tous ces objets qui nous entourent. Et là aussi, il y a des questions à se poser sur la sécurité.
Oui, justement, c'est pour ça que Digital Security, donc la société auquel je fais partie, on a justement on s'est consacré à tout ce qui est objets connectés, à la sécurité des objets connectés. Donc on a un laboratoire justement pour tester ces objets. Les entreprises qui développent des objets connectés font appel à nous pour les tester. Mmh. Et donc on va tester la sécurité, la robustesse un petit peu de ces objets-là. Ça peut être, ça peut être des caméras connectées, des cadenas, des ampoules connectées, enfin tout type d'objets. Et nous, on va tester la sécurité et on se rend compte, malheureusement, que la sécurité, elle est manquante. Par contre, comme ils font appel à nous, on est capable de les prévenir et puis que ce soit corrigé.
Voilà. Ouais, Gérard Berry.
Mais le problème, c'est que la sécurité, c'est difficile. Et par exemple, Samsung avait fait un système qui s'appelle SmartThings, les choses intelligentes, censées être horriblement sécurisées. Et les chercheurs l'ont craqué en 15 jours. Ouais. Donc, par exemple, ils pouvaient introduire leur code dans la porte d'entrée des propriétaires sans que les propriétaires soient au courant. Vous savez, la clé sous le paillasson, c'est gentil dans un monde doux, mais dans un monde dur, ça marche pas très bien, quoi.
Nicolas Arpajian, Nathalie demande par mail, qu'est-ce qu'on risque concrètement avec ce type d'attaque?
En fait, c'est que de ne plus avoir accès à ces informations. Alors, quand il s'agit uniquement de vos derniers souvenirs de vacances, c'est regrettable, c'est dommageable, mais il va falloir prendre sur vous pour continuer à vivre. Il est évident, ce sont des données financières, des données qui ont des secrets d'entreprise. Là, le fait que vous n'êtes plus maître, si c'est le cas vraiment des logiques de chiffrement de ces données, puisque c'est le caractéristique du rançongiciel qui nous concerne aujourd'hui, c'est le fait que vous ne disposez plus de ces activités. C'est pour ça que, de ces éléments. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande aux gens le fait d'avoir déjà segmenté, alors là, pour les entreprises, segmenté leur système d'information de manière à éviter, c'est la coque du bateau. La coque du bateau, au début, avant le Titanic, on faisait des coques ouvertes, et puis à un moment, on s'est aperçu que quand il y avait une voie d'eau, tout le bateau était inondé et le bateau coulait. On a créé donc des cloisons étanches de manière à ce que s'il y a une voie d'eau, elle n'est que sur un segment. Pareil, de garder des sauvegardes, faire en sorte de dire si je fais des sauvegardes régulières, je ne perdrai que les données jusqu'à la précédente sauvegarde. C'est-à-dire que ça oblige, mais là aussi, c'est de réfléchir à l'architecture et d'avoir une démarche quotidienne ou en tout cas très régulière.
Oui, c'est une hygiène informatique
exactement,
au fond.
Hein, exactement.
C'est ça. Et on n'a pas du tout ce réflexe, en fait, Gérard Berry, d'hygiène.
On arrive au bac et après, on a passé zéro seconde à apprendre ce que c'est que l'informatique. Donc les résultats sont les résultats qu'on a construits.
Et puis une connaissance qui est, on a une impression de durabilité parce qu'on voit ces documents qui sont sur un écran, on a l'impression qu'on va pouvoir les dupliquer facilement. La seule chose, c'est que le fait que dès lors qu'on ne peut plus y avoir accès, il faut les recréer à partir de zéro et ça, quelquefois, c'est tout bonnement impossible.
Alors Europol, justement, qui est la police à l'échelle européenne, a insisté sur la rapidité inédite de la propagation. On sait vraiment, Nicolas Kovacs, comment l'attaque s'est répandue et on a bien compris ce phénomène de propagation rapide ou pas?
Alors, C'est en cours. Enfin, on a des via les études que des chercheurs et nous aussi, on a regardé, on sait à peu près comment ça fonctionne. Mmh. Alors, c'est pas un ransomware classique, justement, où là, ça, normalement, ça se distribue par mail. Très souvent, c'est un mail avec une pièce jointe qui est piégée et si vous l'exécutez, alors ça va vous demander la rançon et chiffrer tous vos documents. Ici, c'est un peu différent. C'est qu'en fait, c'est une vulnérabilité liée à Microsoft hein, sur un protocole particulier hein, qui est SMB. Et ce qui se passe, c'est que ça se propage par là. Donc si vous avez, je ne sais pas, un site web qui a ce port d'ouvert disponible sur Internet, il est attaquable si le système n'est pas à jour. Et du coup, bah, ça va se répliquer. C'est-à-dire que ça va tester le système d'information local et ça va essayer aussi sur Internet bah, de trouver d'autres cibles potentielles. Mm-hmm. Et du coup, ça s'infecte comme ça. C'est pour ça qu'on parle à la fois d'un ransomware et d'un ver.
D'accord.
C'est un peu les deux.
Gérard Berry, apparemment, ce virus fonctionne avec des dizaines de langages différents. C'est ce qui fait sa force aussi ?
Langage, il n'y a pas de langage dedans. Il n'est pas connecté à des langages.
Apparemment, les experts en informatique pointaient du doigt justement ce recours aux différents langages pour expliquer la virulence du virus.
Peut être justement développé en plusieurs langages de programmation. Ça peut être en C, directement en assembleur. Mais oui, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. La finalité reste au final la même. Voilà.
Allez, Gérard B, Nicolas Arpagian, Nicolas Kovacs, on va se retrouver dans 10 minutes. On invite les auditeurs à poursuivre les questions. Hein. Vous allez y répondre pendant la dernière partie, justement, de cette tête au carré. Il y a beaucoup de questions aussi sur la façon de payer, hein, tout à fait spécifique avec le Bitcoin. Vous nous répondrez et puis on verra évidemment comment parvenir à se prémunir de ce type d'attaque. Pour l'instant, vous écoutez France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Allez, on revient à notre dossier sur cette cyberattaque de ce week-end avec mes invités Gérard Berry, Nicolas Arpagian et Nicolas Kovacs. Qui sont les pirates qui se sont cachés justement derrière cette attaque? Ça fait partie des nombreuses questions des auditeurs, Nicolas Arpagian.
Bah, tout dépend si les options qu'on va prendre dans l'analyse, si on est dans une logique uniquement crapuleuse, c'est-à-dire ce qui semble être la motivation première. Je vous chiffre vos données en échange du paiement d'une rançon. Là, on est dans l'activité criminelle. C'est peut-être cette option qui est la plus rassurante. Alors évidemment, faut expliquer pourquoi. Parce que la seconde option serait moins rassurante, ce serait de quelqu'un qui veillerait à essayer de tester la robustesse, voir comment, lorsque des systèmes d'information critiques dans des hôpitaux, dans des administrations, dans les grands groupes sont mis à mal, est-ce qu'il y a des plans B, est-ce qu'il y a des systèmes de secours, est-ce qu'il y a des systèmes justement de remédiation. Et donc effectivement, cette option peut être également envisagée d'un test. On évoquait tout à l'heure cette notion de kill switch, c'est-à-dire le fait de pouvoir neutraliser à distance cette attaque. Mmh. C'est vrai qu'un pirate strictement criminel, crapuleux, est moins préoccupé justement par le fait de pouvoir neutraliser son mode opératoire, c'est davantage quelqu'un qui procède à un test et qui à un moment considère que voilà, ça y est, il a suffisamment d'informations et se retire. Parce que là, on voit quand même une coalition inhabituelle dans le domaine de la sécurité, des grands acteurs étatiques, parce que en Grande-Bretagne, c'est la sécurité nationale qui est en jeu. Lorsque votre système de santé est mis en péril, vous voyez une coordination, un alignement des systèmes étatiques qui d'habitude jouent plutôt chacun leur partition. Donc là, le pirate a plus de chances d'être retrouvé, ou en tout cas d'être en tout cas pourchassé, que s'il continuait une activité presque discrète de raquettes et d'extorsion.
Gérard Berry, on voyait à peine une dizaine d'attaques pour la France. C'est-à-dire que les hackers ne s'intéressent pas beaucoup à notre pays ?
Aussi, bien sûr. Je ne sais pas, on n'a pas encore, je pense, les raisons de tout ça. Hein. Si, bien sûr, ils s'intéressent, mais bon, je n'ai rien à en dire. Moi.
Nicolas Kovacs, sur le profil de ces pirates.
Alors on sait pas trop. Pour le moment, moi, je tiens pas à m'avancer. Hein. Ça, pour moi, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être un État, ça peut être un groupe de cybercriminels, juste pour voir un petit peu comment le monde allait réagir face à ça. Hein. On voit déjà ce type de menace via tout ce qui est IoT, on en parlait tout à l'heure, objets connectés, où il y a déjà justement des piratages de nombreuses caméras connectées ou des choses comme ça, qui pourraient autant alerter que ça, mais c'est juste que c'est moins critique, visible. Peut-être,
ouais.
Invisible.
Nicolas Arpagian, certains même affirment que les pirates travailleraient pour Microsoft.
Alors,
que l'entreprise puisse vendre ses nouveaux logiciels.
Non, après, toutes les options, tous les scénarios sont possibles, et la limite, c'est l'imagination. Non, on n'est pas dans ces dimensions-là, parce que là, blague à part, on a quand même, on a évoqué le cas d'hôpitaux, on a évoqué des choses qui, avec une véritable incidence possible sur la vie humaine, sur la continuité d'activité. Donc là, on ne peut pas considérer que ce soit une option solution sérieusement envisageable. Par contre, ce qui est certain, c'est que là, on a un exercice. Les États souvent organisent de manière temporaire, ciblée, des espèces d'exercices justement de robustesse, de résistance. On parle de stress test. Là, il s'avère que nous avons eu une démonstration. Maintenant, la nouvelle période commence. Quelles leçons vont tirer les décideurs, vont tirer les investisseurs quant aux moyens à mettre en œuvre et aux mobilisations. La France, vous l'évoquez, a été relativement épargnée. On pense que c'est pas uniquement par la qualité et la robustesse de ses équipements, c'est qu'elle a certainement été dans cette attaque-ci moins visée. Ouais. Et c'est donc qu'on a été moins amené à évaluer son exposition au risque.
Ouais, la menace est croissante, a souligné là encore le directeur d'Europol, avec des groupes de cybercriminalité qui sont de plus en plus sophistiqués quand même.
Ils apprennent à chaque fois des usages. Ils apprennent et puis surtout ils maîtrisent l'agenda, ils maîtrisent le tempo de leur attaque, ils maîtrisent le mode opératoire et leur cible. Et donc, ils ont un avantage par rapport à ceux qui sont en défense, qui eux sont forcément dans une posture réactive. Donc évidemment, c'est beaucoup plus épuisant ou en tout cas mobilisateur de ressources d'être justement à l'écoute de ce qui peut se passer, de ce qui peut constituer un signal faible et donc obligé à mettre en place des mesures de protection et de remédiation que de ceux qui sont à l'initiative de l'attaque. Effectivement, l'avantage aux échecs, c'est aux blancs, mais là, c'est très nettement aux attaquants.
Gérard Berry.
Bah oui, il se passe en plus que maintenant que le virus est connu, il y a des tas de gens qui peuvent le modifier. Et c'est plus du tout forcément l'auteur original qui attaque maintenant. Hein, donc,
Marc voilà. Nous dit sur franceinter.fr, on nous parle sans cesse de Windows. Les systèmes Linux sont-ils mieux protégés? Et si oui, comment est-ce possible pour un système gratuit, Nicolas Kovacs?
Alors, ils ne sont pas forcément mieux protégés.
C'est vrai, c'est ce qu'on entend beaucoup.
Ouais. Que Linux est plus sécurisé. C'est pas forcément vrai. Pour moi, il peut y avoir autant de vulnérabilités. C'est juste que là, Microsoft a des services qui sont plus ou moins faciles qui sont visibles, très facilement visibles. Alors que sur Linux, vous avez des services qui peuvent être plus facilement moins visibles. Donc le périmètre est moins grand à attaquer par
Gérard
défaut.
Berry.
J'allais dire.
Oui, c'est
pas mieux.
C'est un peu mieux, mais surtout il y en a pas beaucoup. Donc ça, enfin si, il y en a beaucoup dans les objets. Alors là, on ne sait pas encore. On n'a pas l'expérience, je veux dire, on peut pas trop déduire du passé sur ce qui se passera dans l'avenir, sinon que les gens qui se protègent pas vont en prendre de plus en plus, et les gens qui se protègent vont en prendre aussi. Mais il y a des solutions scientifiques aussi à ça.
Alors qu'est-ce qu'elle nous apporte la science pour nous protéger? Parce qu'évidemment, il y a plein de questions d'auditeurs, comment se protéger? Robert nous dit, voilà.
Alors, pour l'instant, faut faire les mises à jour, il y a que ça, mais tous les laboratoires du monde travaillent sur ce sujet. En France, on a des gens absolument remarquables. Et par exemple, il y a quelque chose qui est extrêmement vulnérable, c'est HTTPS. Qui est plutôt bien d'ailleurs, dont on trouve des trous, on trouve des centaines de trous par an. Et à l'heure actuelle, il y a un projet en France et justement chez Microsoft Research, à l'INRE et chez Microsoft Research, pour faire un SSL, le protocole central, prouvé mathématiquement. Alors, ça va pas se faire en deux secondes parce que c'est super dur, ça va nous apprendre beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui, en France, parmi les meilleurs chercheurs du monde, en France, en Israël, aux États-Unis, sur ces sujets-là.
Il y a un projet qui s'appelle Everest.
Oui.
Alors c'est quoi ce projet?
C'est de faire des protocoles internet prouvés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attaquables par d'autres moyens que leur logique. Les attaques peuvent se faire par des tas de moyens. Par exemple, regarder la consommation électrique des ordinateurs, regarder comment vous tapez sur votre clavier, c'est autre chose. Mais là, il n'y a pas besoin de ça pour ce qui se passe en ce moment.
Nicolas Arpagion.
En tout cas, il ne faut pas verser dans une utopie technologique, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'on aurait l'équivalent, alors évidemment les historiens et les militaires se rappellent de la ligne Maginot, mais une espèce de construction infranchissable qui assurerait la sécurité.
On voit bien que ce n'est pas le cas de toute façon aujourd'hui,
alors,
tous les jours.
C'est pas du tout ce qui correspond à la logique numérique. Donc il faut beaucoup de modestie. En fait, il va falloir peut-être admettre qu'on ne pourra pas tout sécuriser. Par contre, il va falloir se mettre en position de déceler le plus rapidement possible l'attaque dont on a fait l'objet, de manière à pouvoir déclencher des procédures de remédiation le plus rapidement et en fait limiter l'effet, l'impact de l'attaque. C'est-à-dire, faute d'avoir pu l'empêcher, l'identifier, la circonscrire et faire en sorte de revenir dans les meilleurs délais à une situation normale. C'est la vraie démarche de résilience, bien connue des psychiatres évidemment, mais de revenir à l'organisation telle qu'elle était avant l'attaque.
Ouais. Est-ce que vous craignez un véritable terrorisme?
Alors, il n'y a pas d'obstacle. Alors, il s'avère que si on prend en plus des organisations comme Daesh qui étaient dotées de ressources financières importantes liées à l'économie du pétrole, liées à l'extorsion et aux raquettes, dès lors qu'ils auraient la capacité financière d'utiliser des ressources. On parle beaucoup de crime as a service, c'est-à-dire de prestations. Aujourd'hui, si vous cherchez par exemple un petit logiciel pour saturer le site de franceinter.fr, ça vous coûtera quelques dizaines de dollars.
Oui, donnez pas de mauvaises idées, vous êtes gentil, merci.
Bien sûr, mais c'est un cas illustratif, même à partir de votre navigateur, de votre moteur de recherche favori. priori, vous trouverez cette solution. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'il y a eu une demande qui est exprimée, en fait, là, on est dans un monde éminemment libéral. Des offres sont mises à la disposition et il n'y a pas tellement de barrières techniques ni de barrières financières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un technicien. Celui qui va utiliser l'outil n'a pas besoin d'être celui qui l'a conçu. Et en plus, il n'y a pas de barrières financières. Ils sont à des prix tout à fait, enfin, en tout cas, abordables, quelques dizaines d'euros. Et donc, on va bien voir que, effectivement, on doit s'habituer à vivre dans un monde d'insécurité. C'est pour ça que c'est davantage des mesures de protection, de défense. Je sauvegarde mes documents. Je me mets en position de fonctionner peut-être dans un mode dégradé, plus rustique, temporairement, avant de revenir à la normale. Mais je ne pourrais pas vivre dans un monde hygiénisé à fond, dans lequel il n'y aurait aucune bactérie, aucun risque numérique. Parce que, rappelons-le, ce sont des créations humaines. Elles sont donc perfectibles. Et puis, ceux qui attaquent sont également des humains. Et donc, ils peuvent avoir des sentiments offensifs.
Donc, beaucoup de prévention dans ce message.
Certainement. C'est une démarche salutaire.
Nicolas Kovacs, pour réagir.
Oui, c'est exactement ça, en fait. Il y a des services sur Internet qui pour 10, 20, 30 dollars, on a exactement ce type de ransomware qui se propage alors différemment, par mail, par exemple, mais on peut effectivement payer pour un service et du coup, potentiellement, se faire de l'argent directement par ça, en se faisant payer par des bitcoins, par exemple, en bitcoin.
Il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors, pourquoi justement ce recours à cette monnaie virtuelle?
La monnaie virtuelle, on va dire qu'elle est moins traçable. On ne passe plus par des banques, c'est décentralisé. On peut savoir un petit peu tous les paiements qui sont faits sur un wallet particulier, sur un portefeuille électronique particulier qui est lié justement à son propre compte. Mmh. On peut voir qu'il y a des virements ou des virements reçus et envoyés, mais c'est difficilement retraçable jusqu'à la personne finale. Puisqu'en fait, il y a plein d'échanges qui peuvent être faits, qui noient un petit peu justement la transaction d'origine, on va dire.
Gérard Berry.
Bah oui, c'est le Bitcoin, c'est quelque chose qui permet d'avoir confiance dans une monnaie sans avoir d'autorité qui gère cette monnaie. Donc c'est assez différent. Donc pour ça, elle est beaucoup plus anonymisée que la monnaie habituelle. Alors j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, vous pourrez peut-être confirmer, que il y a que 3 comptes possibles dans lesquels verser ces Bitcoins, ce qui est extrêmement étonnant parce qu'on peut en faire un par versement. 3 comptes possibles, c'est quand même le meilleur pour se faire tracer. Là, j'ai pas compris.
En tout cas, c'est ce qui a permis d'évaluer aussi les sommes des rançons. Hein.
Exactement. Sachant que la rançon, le paiement de la rançon, là on revient au film noir bien connu, c'est souvent au moment du paiement de la rançon que le rançonneur se fait prendre. Donc effectivement, cette monnaie virtuelle crée un espèce de fil, de barrière entre ceux qui sont amenés à payer, ceux qui vont collecter l'argent et puis ceux qui cherchent à identifier les racketteurs. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ce système de paiement virtuel, quelquefois, il déstabilise l'entreprise, la PME, qui se voit réclamer des bitcoins et a absolument aucune idée. Alors, du mode opératoire, il faut reconnaître que le pirate, à ce moment-là, fait diligence, c'est un sens du service, puisqu'il inclut, en général, un paragraphe ou deux pour indiquer quel est le mode opératoire pour payer, et il peut éventuellement laisser un délai de 2-3 heures pour que sa victime se familiarise avec ce mode de paiement et donc permette d'effectuer le règlement.
Nicolas Kovacs.
Alors, c'est exactement ça. Nous, on est intervenu dans des entreprises où, justement, qu'ils étaient fait toucher par un ransomware, qui n'est pas celui-ci, mais qui...
Donc, qui avait été rançonné.
L'entreprise a été rançonnée. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que les attaquants ont une adresse mail et on peut communiquer avec eux. Et ils sont même capables de vous dire, sur Paris, vous pouvez aller à la maison du Bitcoin pour aller acheter du Bitcoin. Et ce qui se passe, c'est que même à la maison du Bitcoin, j'avais déjà parlé avec certaines personnes là-bas, qui travaillaient là-bas, qui m'avaient dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui venaient... justement payer des rançons malheureusement
C'est monnaie courante, mais on ne s'en vante pas, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
En plus, on est sur des sommes, vous l'avez vu, 300 dollars en moyenne, on est sur quelque chose où l'entreprise, si c'est, ou même un particulier, peut à un moment envisager de se dire, allez, je vais payer, ça va être le prix de ma leçon. Alors, le problème, c'est que les services de police sont évidemment pas favorables à ces démarches, parce que d'une part, vous encouragez la criminalité de ce type, et d'autre part, vous vous désignez quand même comme cible, comme étant quelqu'un de solvable et quelqu'un prêt à payer. Donc, le risque étant en plus, au-delà du fait qu'il n'est pas certain qu'il vous rende effectivement l'accès à vos données, du fait que vous êtes quelqu'un auprès de qui on peut régulièrement récupérer de l'argent.
En tout cas, c'est une monnaie qui se porte plutôt pas mal.
C'est une monnaie qui a en tout cas les avantages. alors qui n'est pas illicite par essence et par nature. Ouais. Il s'avère que là, c'est un usage qui, en effet, il ne faut pas forcément stigmatiser ce mode opératoire, mais il s'avère que, en l'espèce, il est confortable pour ceux qui souhaitent l'anonymat des transactions.
Gérard Berry, toutes les menaces ne passent pas par les systèmes d'exploitation. Hein. C'est important de le répéter peut-être aussi.
Il y a des menaces plus simples qui passent par les navigateurs. Donc, les navigateurs, on ne le voit pas forcément. Par exemple, dans les applications de téléphone, on a le navigateur dessous, on ne s'en aperçoit pas. Navigateur, c'est ce qui fait toute l'interface homme-machine et tous les liens avec le reste du monde. Et donc, il y a des menaces tout à fait directes qui passent simplement par là, qui peuvent être tout à fait efficaces, qui peuvent par exemple, piquer le mail, le numéro de compte en banque, des faux sites qui deviennent de plus en plus forts. Et c'est beaucoup plus facile à faire, quelque part. Donc, ça se généralise aussi beaucoup, oui.
Jean-Philippe sur franceinter.fr nous dit « Qu'en est-il des clouds ? Les données sont-elles protégées dans un cloud type Dropbox ?» Nicolas Kovacs.
Alors bon, Dropbox, ça peut être un bon exemple, mais il y a plein de cloud, justement, de services de type cloud. Les données, est-ce qu'elles sont plus protégées que d'autres ? Alors, on pourrait dire qu'elles sont plus protégées parce qu'il va y avoir beaucoup plus de tests. Des personnes malveillantes vont tester justement d'accéder à des données privées sur ces clouds. Et du coup, s'il y a une vulnérabilité, elle va très vite sortir, elle va très vite être colmatée. Voilà, ça va être la réactivité, en tout cas, va être très, très rapide. Par contre, nous, on voit très bien dans justement des entreprises qui utilisent les SaaS pour tout ce qui est objets connectés, enfin, tout ce qui est cloud, pardon, ils vont laisser certains services un peu trop ouverts. Et du coup, ces services un peu trop ouverts permettent d'attaquer l'entreprise derrière.
Gérard Berry.
Puis la meilleure vulnérabilité, ça reste le mot de passe stupide qui est dans le dictionnaire, un prénom. Ça, là, c'est garanti. Il n'y a même pas besoin de se fatiguer pour un
Reina nous dit, c'est assez inquiétant de voir que personne ne parle de la copie et diffusion, réutilisation de données récupérées par ransomware, justement.
En fait, c'est une activité criminelle, c'est-à-dire que c'est du recel. À partir du moment où des informations, alors c'est pas fort, le ransomware n'est pas caractérisé de ça, c'est je rentre dans votre système, je vole des informations, et après, soit je les mets sur des places de marché, ou je vais soit les vendre, les échanger, voire les offrir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on évoquait le cas du cloud, donc le cloud, c'est le fait de, les données ne sont pas stockées sur votre ordinateur à la maison ou au bureau, mais chez un prestataire qui le duplique en différents endroits. Alors, un avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez quand même engager la responsabilité de ce prestataire.
Attendez, place à l'information, Laetitia Gaillet.